La République assure un niveau de protection de l'environnement élevé et en constante progression, notamment pour la protection de la biodiversité et l'action contre les changements climatiques. Ça peut être une base de réflexion. Je pense que le fait que le mot changement climatique, c'est quand même l'enjeu du XXIe siècle, personne ne le conteste, et le mot biodiversité. Il y a une troisième paramètre, mais qui était compliqué à faire figurer, c'est la finitude des ressources. C'est-à-dire que nous ayons conscience que nous avons des ressources finies et qu'il faut un modèle de développement qui tienne compte de la finitude des ressources. Mais si déjà on y arrive, franchement, on aura fait un pas important.
Inscrire la protection de l'environnement dans l'article 1 de la Constitution, comme présenté, évoqué par le ministre Nicolas Hulot. Avec nous depuis 7h30, le militant et essayiste Cyril Dion, cofondateur avec Pierre Rabhi du mouvement Colibri. Et par téléphone, la juriste Valérie Cabanès, dont il faut louer l'effort à être parmi nous ce matin. Vous deviez être là physiquement en studio, jusqu'à ce que Dame Nature en décide autrement. Merci à vous quand même. Bonjour.
Bonjour.
Valérie Cabanès, juriste en droit international spécialisée dans les droits de l'homme, cofondatrice de l'ONG Notre Affaire à tous, qui œuvre en faveur d'une justice climatique, organisatrice aussi de procès fictifs pour les droits de la nature ou encore contre la firme Monsanto. Dans un ouvrage manifeste, un nouveau droit pour la terre, paru l'an passé au Seuil, vous plaidiez pour l'inscription dans le droit pénal international du crime d'écocide et dans Homo Natura, sorti à l'automne dernier chez Buchet-Chastel, pour une reconnaissance des droits de l'environnement en incluant la nature dans le cercle du droit à exister et à se régénérer. Donner des droits à la nature, Valérie Cabanès, pour qu'elle puisse être représentée sur le plan judiciaire, ça c'est votre grand combat. Inscrire l'environnement, ou plutôt sa protection, dans l'article 1 de la Constitution, c'est ce qu'a été annoncé le 20 juin par Nicolas Hulot, qui sera discuté à l'Assemblée le 10 juillet. Est-ce que ça peut changer quelque chose? C'est-à-dire, pratiquement, on a besoin de l'éclairage d'une juriste. Est-ce que cette inscription peut se transformer en droit opposable pour la nature?
Oui, c'est tout l'intérêt effectivement de changer l'article 1. D'une part parce que le climat n'était pas inscrit dans la charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle et donc il était important que la protection du climat devienne une valeur, je dirais, fondatrice et fondamentale. En fait, l'intérêt d'une constitution, c'est qu'elle dure dans le temps et qu'elle s'impose aux politiques et aux suivants. Ce qui nous permet véritablement de construire une politique à long terme et en termes d'opposition, de saisir le Conseil constitutionnel si le législateur décide d'un projet ou vote une loi qui serait contraire aux valeurs de la Constitution. Si. Alors, il faut savoir qu'on a œuvré pendant plusieurs mois pour que cela arrive, mais on avait demandé beaucoup plus. On avait demandé à ce qu'effectivement la protection du climat et de la biodiversité soit inscrite. Mais on avait demandé, pour que ça devienne véritablement contraignant, que les limites planétaires, Nicolas Hulot disait tout à l'heure, la finitude des ressources. Moi, j'utilise plutôt le terme de limite planétaire, qui est un terme scientifique qui définit des limites au-delà desquelles l'écosystème terrestre devient inhospitalier, soit inscrit dans la Constitution, parce que c'était la possibilité d'avoir un vrai cadre qui nous permette effectivement d'œuvrer en toute sécurité pour les générations présentes et les générations à venir, bien évidemment en limitant l'activité industrielle. Donc ça, pour l'instant, on l'a pas obtenu. On continue à faire pression. Les citoyens, d'ailleurs, peuvent le demander. C'est un site qui s'appelle notreconstitutionecologique.org. Et puis, on demandait aussi à ce que le principe de non-régression soit inscrit dans la Constitution pour justement éviter que des gouvernements suivants puissent revenir dessus ou revenir sur des lois qui seraient plus protectrices et le principe de précaution qui va avec les limites planétaires, c'est-à-dire à un moment donné, d'avoir un vrai fonctionnement responsable.
Valérie Cabanès, ce combat judiciaire pour la nature, pour l'environnement, il est né aux États-Unis. Un mot avec vous du juriste américain, spécialiste d'éthique environnementale, Christopher Stone. Il est l'auteur d'un ouvrage fondateur sur le sujet paru en 72 et traduit pour la première fois en France l'an dernier. Les arbres doivent-ils pouvoir plaider? Il était favorable à l'élaboration d'un droit international sur les questions environnementales. Quelle était sa philosophie de l'action? Et est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, en 2018, plus de 40 ans après, elle commence à porter?
Très clairement. Si vous voulez, l'intérêt véritablement d'une... Il y a deux intérêts. L'intérêt est de donner des droits à la nature, c'est-à-dire de permettre à ce que des citoyens, à ce que des associations puissent défendre les intérêts d'un écosystème, par exemple, ou d'une espèce, à exister pour elle-même, pour sa valeur intrinsèque devant la justice. L'intérêt est double. Le premier, il est d'abord préventif, C'est-à-dire qu'en France, par exemple, même si on reconnaît le préjudice écologique, on ne peut l'utiliser qu'après la catastrophe. Là, il s'agit véritablement de pouvoir protéger des écosystèmes, par exemple en phase de pré-projet industriel. Ensuite, il s'agit d'une autre vision, d'un autre rapport, d'un autre récit, comme dirait Cyril, que l'on se raconte par rapport au monde. C'est-à-dire finalement sortir, comme dirait Bruno Latour, de la caverne de Platon, des idées, ce récit politique, juridique dans lequel nous nous inscrivons depuis les Romains et qui nous pousse en fait à nous considérer comme maîtres de la nature et à vivre hors sol, vers un récit qui soit un récit biologique, qui reconsidère le fait que l'homme est un élément naturel comme les autres, qu'il est intrinsèquement interdépendant de toutes les autres espèces animales et végétales, et donc qu'on a besoin aujourd'hui de reformuler le droit de manière à finalement donner le droit à la vie d'exister pour pouvoir garantir notre droit à la vie en tant qu'humanité et nos droits fondamentaux, droit à l'eau, droit à l'alimentation, droit à la santé.
Où atterrir ? C'est aussi la question que se pose Bruno Latour, Cyril Dion. C'est intéressant, c'est qu'à vous deux, en tout cas les deux visions que vous représentez et incarnez l'un et l'autre ce matin, on voit que d'un côté s'ouvre un premier front culturel, cette bataille culturelle que vous entendez mener à travers de nouveaux récits qui restent à écrire et à inventer. Et d'un autre côté, un front judiciaire avec cette bataille devant les tribunaux qui pourrait un jour avoir lieu si ce crime d'écocide notamment était reconnu. Mm-hmm. Il faut ces doubles batailles et y ajouter peut-être la bataille politique en plus.
Oui, en fait, ce que j'essaie de développer dans le petit manuel, c'est l'idée que nos sociétés sont fondées sur des récits, comme je le disais tout à l'heure. Les récits, c'est un peu l'air qu'on respire, c'est un peu l'eau qui est autour des poissons. On se rend même plus compte qu'ils existent, mais ils orientent notre imaginaire. C'est comme ça qu'on voit le monde, qu'on le conçoit. Et à partir du moment où ces récits se transforment, ils s'incarnent ensuite dans des structures politiques, juridiques, donc la loi, économiques, la façon, par exemple, dont on crée l'argent aujourd'hui, culturelle. On parlait tout à l'heure d'Internet et de la libre circulation des informations sur Internet. Ça, aujourd'hui, ça fait partie d'un récit qui est extraordinairement prometteur ou inquiétant pour le futur. Et donc, on voit bien que c'est une globalité. C'est pour ça que, évidemment, c'est jamais... Quand on se pose la question de savoir... est-ce que c'est bien, par exemple, que ça rentre, que cet article de la Constitution soit écrit, en tout cas que l'écologie entre dans l'article 1 de la Constitution. Évidemment, c'est formidable parce que c'est le signe que culturellement on est en train de changer, que notre représentation du monde est en train de changer. Est-ce que c'est suffisant ? Non, ça n'est pas suffisant, ça n'est jamais suffisant, puisque aujourd'hui on est face à une urgence qui demanderait de transformer notre modèle de société dans les 20 ans qui viennent de façon radical. Et ça, c'est le plus difficile. Parce que même si on écrit ces récits dès maintenant, la capacité de les faire s'incarner, comme je disais, dans des structures, ça prend souvent plusieurs générations et on ne les a pas forcément devant nous.
Oui, le débat autour de la directive copyright actuellement au Parlement européen semblait vous interpeller tout à l'heure. Quel rapport, quel lien vous faites ?
Ça m'interpelle parce que je suis auteur, parce que j'écris des chansons, j'écris des films, j'écris des romans, j'écris des essais. Donc évidemment, je me sens concerné par le sujet et concerné parce que très interpellé par ça. On a été très interpellé, par exemple, sur le fait que on mettait pas deux mains en libre circulation sur Internet gratuitement.
Le film que vous avez co-réalisé, voilà, avec Mélanie Laurent.
Exactement, pour que tout le monde puisse le voir. Mais à un moment, la question est de se dire, est-ce qu'on est d'accord pour accepter que les auteurs sont, les créateurs, sont très importants dans notre société? Et là, on parle de produire de nouveaux récits. Les artistes, les créateurs, sont fondamentaux pour ça. Donc si on ne les protège pas en leur permettant de vivre de leur métier grâce aux droits d'auteur, ça pose un énorme problème. Et en même temps, j'ai un peu l'impression d'être Emmanuel Macron quand je dis ça.
Ça n'arrête pas depuis ce matin. Hein.
Et à la fois, on est obligé aussi d'entériner le fait que Internet a bouleversé le monde et nous permet aujourd'hui de nous organiser, de produire ensemble des contenus et d'enrichir d'une certaine façon l'humanité dans la façon dont on travaille ensemble, dont on collabore, coopère. Donc il faut trouver un juste milieu entre les deux.
Une question, Valérie Cabanès, sur le nucléaire. Vous êtes marraine de l'initiative, notamment pour le désarmement nucléaire. Aujourd'hui, un rapport qui détaille les conditions de sécurité et la manière de mieux protéger les centrales françaises vient d'être rendu, élaboré par la commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire, présidée par Barbara Pompili. Le nucléaire, ça c'est un sujet quand même très français, dans le sens où on a l'impression que c'est une polémique éternelle, qu'on n'arrive pas à y trouver d'issue, à la fois sur la question de l'énergie nucléaire, mais aussi sur la question de la sécurité. Vous avez pu lire les grandes lignes de ce rapport, comprendre ce qu'il implique, là encore, comme changement ?
J'ai pas pu le lire, faute d'électricité et de réseau stable, mais ce que je peux simplement vous dire, c'est que ça fait déjà un moment, par exemple, avec notre affaire à tous, que nous nous soucions de la sûreté nucléaire, puisque nous avions déposé un recours en décembre 2015 et en janvier sur le fait justement que la France avait monté finalement les minima en termes de sécurité nucléaire à l'insu de tout le monde, c'est-à-dire tout début janvier pendant que nous faisions les fêtes. Nous avions aussi déposé un recours sur le fait qu'il y avait des problèmes des failles dans le EPR de Flamanville et des fissures dans la cuve. Nous avons d'ailleurs perdu, et EDF nous a demandé, petite association où nous sommes de bénévoles, de payer leurs frais d'avocat pour avoir dérangé le géant. Et puis, de manière générale aussi, par rapport même à ce que Nicolas Hulot disait l'autre jour dans son Facebook Live avec Édouard Philippe, on va être obligé quand même de s'appuyer sur le nucléaire pour amorcer cette transition énergétique. Quand on voit effectivement le déficit que EDF et Areva connaissent aujourd'hui, le fait que la France n'a jamais thésauriser les frais de démantèlement des centrales nucléaires comme l'ont fait par exemple la Norvège ou la Suède, on est vraiment dans une impasse qui devient une impasse extrêmement dangereuse. Si tout cet argent était aujourd'hui investi dans une véritable transition énergétique verte, nous irions beaucoup plus vite, et c'est vrai que ce lobby nucléaire devient une véritable menace à la sûreté des Français et de tout le monde, parce que s'il y a un accident un jour, avec le prolongement de durée de vie des centrales qui a été accepté par Ségolène Royal à l'époque en 2016, on est face à une véritable menace qui, pour moi, est très angoissante.
Voilà, un parc nucléaire français qui comporte plus de fragilité qu'estimé au départ, oui. Des failles, c'est ce qu'évoque ce rapport de Barbara Pompili, ancienne membre d'Europe Écologie Les Verts, rapporteur donc de cette commission. Merci beaucoup à vous, Valérie Cabanès. Homo Natura, en harmonie avec le vivant, c'est le titre de votre dernier essai paru chez Bûcher Chastel. Un grand merci à vous, Cyril Dion, de vous être levé tôt pour être autour de cette table dans les studios de France Culture avec nous ce matin, Cyril Dion, auteur d'un petit manuel de résistance contemporaine paru dans la collection Domaine du Possible chez Actes Sud. Merci à vous.
Merci beaucoup.